Génération Passepartum, épisode 4. Aujourd'hui, on jase dépistage prénatal et du choix informé de le faire ou pas. C'est parti! Bienvenue sur Génération Passepartum, un podcast pour les parents, en devenir ou en plein dedans. Je suis Audrey Sénéchal, fondatrice de Petit Pas Portail Parents, au service de l'épanouissement des petits comme des grands. Repenser la naissance autrement, célébrer la petite enfance comme il se doit, mieux comprendre pour aligner vos choix, voilà ce qui vous attend. Pour une parentalité engagée et décomplexée, sans verser dans la culpabilité. Génération Passepartum, ta référence pour tout ce qui touche la périnatalité, la parentalité et la petite enfance. Bonne écoute! L'information contenue dans ce podcast ne remplace en aucun cas les conseils professionnels d'un médecin, d'une sage-femme ou tout autre professionnel de la santé. Il ne vise pas à donner de conseils précis ni individualisés et ne devrait pas être interprété de la sorte. Vous devriez toujours consulter un professionnel de la santé qualifié pour vos questions médicales personnelles avant de faire des choix éclairés. Donc, encore une fois, pour faire un choix informé, ben il faut commencer par savoir de quoi on parle. Donc, on va commencer par s'expliquer en quoi ça consiste le dépistage prénatal, qu'est-ce que ça dépiste, qu'est-ce que ça peut éventuellement amener à diagnostiquer aussi et quelle prise de décision peut découler de tout ça. Ce qui est quand même pas banal, on va se le dire, parce que ça vient toucher à notre système de valeurs, à notre philosophie de vie, puis à ce que ça signifie pour nous d'accueillir un enfant. Ça va toucher à des choses aussi pointilleuses que comment je vois ça, moi, accueillir un enfant différent. Ou encore comment je vois ça si j'ai un résultat X à ce test de dépistage-là, ou est-ce que j'ai vraiment pensé à ce que je vais faire si jamais j'obtiens un résultat X, Y, Z. Donc, c'est quand même une corde sensible. Donc, commençons par c'est quoi finalement le fameux dépistage. Donc, le dépistage prénatal, ça dépiste. Donc, c'est son objectif de dépister les aneuploïdies fœtales. Donc, ça, c'est un beau grand mot compliqué pour dire les fœtus, dans le fond, qui ont un nombre anormal de chromosomes. Donc, le dépistage prénatal va adresser principalement les trisomies, qui sont des anomalies où il y a une paire de chromosomes qui, malencontreusement, est arrivée en triple plutôt qu'en paire. Donc, normalement, chaque cellule du corps est constituée de 46 chromosomes, donc 23 paires de chromosomes. Dans le cas des trisomies, ce qui arrive selon le type de trisomie, c'est qu'il y a une des paires qui va avoir un chromosome supplémentaire, donc il est surnuméraire. Puis on va parler par exemple de trisomie 21, de trisomie 18 et 13. Donc le dépistage prénatal s'adresse aux trisomies et il ne va pas diagnostiquer ni dépister d'autres sortes d'anomalies chromosomiques. Ça m'amène à faire la distinction justement entre dépister et diagnostiquer. Donc, dépister, c'est d'évaluer le ratio de risque potentiel, donc une probabilité. Ce qui veut dire que ce n'est pas un diagnostic. À l'inverse, le test diagnostique, lui, va venir confirmer qu'il y a réellement une trisomie ou au contraire, va confirmer l'absence de trisomie malgré le risque potentiel qui a été relevé, par exemple, au moment du test de dépistage. Donc, la nuance est quand même super importante entre le dépistage et le diagnostic. Donc, on va y aller rondement là, dans les explications maintenant au niveau des différents types de trisomie. Donc, généralement, on connaît quand même l'existence de la trisomie 21, qui est peut-être plus commune ou du moins dont on entend plus parler. Alors que la trisomie 18 et la trisomie 13, elles, sont beaucoup moins connues. Commençons d'abord par la trisomie 21, qu'on appelle aussi le syndrome de Down, qui est une des anomalies chromosomiques les plus fréquentes. Donc, ça va toucher environ un bébé sur 770, Puis, ce qu'on sait, en fait, c'est que la probabilité d'avoir un enfant trisomique va augmenter avec l'âge de la femme enceinte. Donc, c'est pas quelque chose qui est héréditaire, là. Généralement, c'est plutôt aléatoire. Puis, c'est bien qu'on a dit que le risque augmente avec l'âge de la femme enceinte, ça pourrait aussi arriver à des femmes plus jeunes. Donc, à l'inverse, c'est pas parce qu'on est enceinte à 42 ans, par exemple, que automatiquement on va avoir un bébé trisomique. Donc, les risques sont plus grands, mais les possibilités sont aussi très grandes d'avoir un enfant qui n'est pas atteint de trisomie. Donc, chez les enfants qui naissent avec la trisomie 21, on peut reconnaître, puis probablement que vous en avez déjà côtoyé ou vu, du moins. Donc, on peut reconnaître certaines particularités physiques là, qui sont assez caractéristiques au niveau du visage, entre autres. Donc, qui peuvent être plus subtiles chez certains, plus visibles pour d'autres. Puis, ça vient souvent avec un retard cognitif qui va être très, très unique à chacun, finalement. Et ce retard-là, ben c'est absolument impossible de prédire. Donc, tu sais, au moment où on découvre, par exemple, enceinte, la trisomie 21, on ne peut pas prédire le niveau d'atteinte par rapport au retard cognitif chez le bébé à naître. Puis, ce qu'on sait aussi, c'est que selon l'environnement dans lequel l'enfant trisomique va grandir, le milieu dans lequel il va baigner, ben certaines de ses capacités vont être optimisées. Donc, si l'enfant grandit dans un environnement, dans un milieu, une communauté où il est reconnu, il est aimé, célébré, puis il est impliqué dans les activités familiales, ça va stimuler beaucoup sa capacité cognitive. C'est donc difficile de prédire, par exemple, à un couple qui attend un enfant, qui apprend que son bébé est trisomique, quel genre d'avenir va lui être réservé, finalement. Dans le sens où tout est possible. Donc, il y a certaines personnes trisomiques avec un bon support qui vont arriver à avoir une vie assez autonome, alors que d'autres ne seront pas en mesure de le faire. C'est super variable et surtout très, très imprévisible. Une autre particularité, c'est que... il y a souvent d'autres problématiques de santé là, qui peuvent venir se greffer ou s'ajouter dans le portrait, finalement, comme des problèmes de cœur ou encore des problèmes d'audition ou des problèmes de vue. Les anomalies cardiaques, généralement, peuvent être diagnostiquées, par exemple, lors des échos de contrôle, les suivis pendant la grossesse. Alors que des fois, peut-être les problèmes auditifs ou de vue vont être diagnostiqués, eux, plus tard, donc quand l'enfant est né. Alors, au final, les enfants, les personnes atteintes de trisomie 21, finalement, ont quand même la possibilité de vivre une vie épanouie s'ils sont dans un milieu où ils sont supportés et aimés. On y va maintenant avec la trisomie 18, qui est aussi appelée le syndrome d'Edward. Donc, la trisomie 18, elle, c'est une trisomie qui est non viable. Donc, qui fait que le bébé ne peut pas survivre, finalement. Et elle est beaucoup plus rare que la trisomie 21. Donc, elle va toucher environ un bébé sur 4500. C'est tout aussi aléatoire, finalement, que la trisomie 21. Mais en plus d'être associé à des graves malformations qui vont souvent se finir en fausse couche au premier trimestre ou en fausse couche un peu plus tardive si par exemple les parents l'apprennent là, plus tard pendant le processus de dépistage. Puis si toutefois même les parents décident de poursuivre la grossesse suite à l'annonce du diagnostic, souvent l'enfant va soit décéder pendant la grossesse ou s'il naît à terme, va décéder là, dans les heures ou la journée qui suit la naissance, finalement. Donc, c'est pas un pronostic qui est viable. Et c'est un peu la même chose aussi, on arrive maintenant à la trisomie 13. Donc, la trisomie 13, qu'on appelle aussi le syndrome de Pato, qui est encore plus rare, donc qui arrive là, chez un enfant sur 7000 et qui est aussi une trisomie qui est non viable. Donc, encore une fois, elle est associée à des graves malformations, puis un peu la même chose, donc soit qu'il y a une fausse couche qui va survenir au premier trimestre avant même d'avoir entamé les tests de dépistage. Donc, souvent, on ne saura même pas que c'était ça, parce qu'il n'y aura pas nécessairement d'autres tests qui vont être effectués. Ou encore la fausse couche peut se passer plus tardivement et dans les cas où bébé arrive à terme, ce qui peut arriver aussi, généralement il va y avoir le décès là, dans les premières heures de vie également. Donc trisomie 18 et 13, c'est pas pour rien qu'on en entend moins parler, c'est qu'elles sont assez rares et elles ne sont pas viables. Donc maintenant, une fois qu'on connaît un peu mieux le portrait de ce qui peut être dépisté, donc au niveau des trisomies, des anomalies chromosomiques, on va se poser la question comment ça se passe, le dépistage prénatal. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus qui se passe en plusieurs étapes. Donc, ça commence d'abord par un test biochimique, donc qui consiste à faire une prise de sang à deux reprises pendant la grossesse. Donc, la première prise de sang se fait entre la 10e et la 13e semaine de grossesse, puis la deuxième va se faire un petit peu plus tard entre la 14e et la 16e semaine. Donc, ces périodes clés-là, ces plages-là sont importantes à respecter parce qu'on va aller chercher finalement des éléments sanguins assez précis. Puis, on sait que quand on les attrape dans ces périodes-là, finalement, bien, on va ensuite pouvoir les mettre ensemble, les corréler, les analyser, puis être en mesure de faire un calcul et de faire le ratio final, finalement, pour évaluer les risques de porter un bébé avec une trisomie. Bon, ça a l'air bien compliqué, tout ça, mais ce qui est important au final, c'est de respecter les bons moments de prise de sang. Donc, le test biochimique peut être fait tout seul, c'est-à-dire juste les deux prises de sang, ou encore, il peut être jumelé à la mesure de la clarté nucale, qui, elle, va être faite lors de l'échographie du premier trimestre. Donc, ce qui fait que quand on combine les deux, c'est encore plus précis si on y ajoute la mesure de la clarté nucale. Et encore une fois, cette mesure-là doit être faite au bon moment, elle aussi. Donc, entre la 11e et la 13e semaine. Donc, souvent, ça va être quand ça vient comme en package, finalement. Donc, quand la femme enceinte va faire sa première prise de sang, il y aura aussi l'échographie de clarté nucale pour le dépistage. Qu'est-ce qu'on vérifie à l'écho? Clarté nucale, en fait, c'est l'épaisseur de la nuque de bébé, puis l'accumulation de liquide à cet endroit-là. Donc, il y a une petite accumulation de liquide qui est tout à fait normale, qui est physiologique, et c'est ça qui va être mesuré. Mais si, par exemple, l'épaississement de la nuque est au-dessus de 3,5 mm, alors ça nous donne un marqueur qui est assez fiable pour suspecter la présence d'une trisomie. Donc déjà, ça nous donne un petit son de cloche à ce moment-là. Mais il faut quand même attendre l'échographie et le moment après la deuxième prise de sang, finalement, donc entre 14 et 16 semaines, pour avoir le résultat. Ce qui fait que le délai est quand même long. Donc, il ne faut juste pas oublier que c'est un processus qui se fait sur plusieurs semaines. Les résultats maintenant. Donc, quand on reçoit les résultats du dépistage prénatal avec les tests biochimiques, puis avec ou sans la clarté nucale, donc autour de 10 à 18 semaines, on a deux options de résultats. Soit un risque faible ou une probabilité faible, ou encore un risque élevé, donc une probabilité élevée. Puis, ce résultat-là vient souvent avec un chiffre du genre risque faible 1 sur 1500 ou 1 sur 10 000, ou encore si c'est une probabilité élevée, ça peut être un genre de 1 sur 100 d'avoir un bébé avec une trisomie. Donc ça, c'est les résultats qu'on reçoit. Mais ça ne distingue pas les types de trisomie. Donc, il ne faut surtout pas oublier aussi que ce n'est pas un test diagnostique. Donc, même avec un risque faible, ce n'est pas 100% garanti que bébé n'ait pas une trisomie. Si le résultat revient avec la mention « risque élevé », qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Puis là, ben, il y a différentes options possibles, encore une fois. Donc, soit j'accueille cette information-là, je m'arrête ici, je fais confiance à la vie, puis j'accueille ce qui est. Ou encore, je veux comprendre, puis je veux en savoir plus. Donc, dans ce cas-là, on va se diriger vers un autre test. Donc, le premier test, on a parlé du test biochimique. Là, on parle du test génomique, qui n'existait pas si on remonte là, juste à quelques années seulement. Donc, le test génomique, c'est un autre test qui n'est pas du tout intrusif. Donc, c'est une prise de sang qui va venir analyser les fragments d'ADN du fœtus dans le sang de la mère. Donc, c'est un test qui est fiable à 99%. Donc, c'est quand même assez... assez extraordinaire finalement parce que par exemple un couple fait le dépistage puis qu'il y a un résultat risque élevé, ce qui est le cas là, à peu près de 3-4% des couples qui font le dépistage prénatal, bien au lieu d'aller faire la myosynthèse comme on faisait avant, il n'y a pas si longtemps, bien là c'est juste une autre prise de sang, donc le test génomique. Quand même assez révolutionnaire parce qu'on va y revenir à la myosynthèse, puis la myosynthèse est beaucoup plus intrusive et plus risquée par le fait même. Donc, on va prendre toutes ces petites révolutions-là. Donc, la prise de sang est faite après la 13e semaine de grossesse, puis le résultat va revenir assez rapidement aussi, là, c'est une question de jours. Donc, la plupart du temps, le résultat revient avec risque faible, puis c'est fiable à 99%. Si, par contre, le test génomique revient avec un résultat risque élevé, c'est quand même très probable, finalement, que l'enfant ait effectivement une trisomie. Mais là, encore une fois, avant de prendre une décision aussi importante que de mettre fin à la grossesse, souvent on va aller vers l'option de l'amyosynthèse qui est recommandée pour vraiment confirmer, parce qu'il y a quand même un faible risque de faux positifs. Donc encore une fois, il faut comprendre que le test génomique, c'est pas non plus un test diagnostique, donc c'est un test de dépistage, tout comme le test biochimique. Si on parle de l'accès à ces tests-là maintenant, on peut se demander si on peut passer tout de suite au test génomique. Donc, la réponse est oui, si vous payez ce test-là au privé. Ou ça peut être oui aussi si vous avez plus de 40 ans. Ou encore si vous avez déjà eu un bébé avec une trisomie ou des antécédents parmi vos enfants d'anomalies génétiques. Donc là, vous seriez candidate pour obtenir le test génomique gratuitement. Si vous n'avez pas ces facteurs de risque-là, ben oui, vous y avez accès quand même, mais à ce moment-là, c'est payant au privé. Pour le moment, en fait, le test génomique n'est pas accessible à la population en général. Puis, la recommandation reste quand même de passer par le dépistage biochimique d'abord. Et si le résultat revient avec un risque élevé, bien là, on va aller vers le test génomique. Et finalement, si au test génomique, on a aussi un résultat risque élevé, donc on se rappelle qu'il est encore un test de dépistage, bien on va à ce moment-là aller vers la myosynthèse. Puis là, je dis, on va aller vers la myosynthèse, mais encore là, tout dépend de votre processus de réflexion. Donc, si vous êtes prêt à faire le deuil de l'enfant normal, puis d'accueillir un enfant trisomique, peut-être que la myosynthèse n'est pas nécessaire, puis que le processus va s'arrêter là. Ou encore, peut-être que vous allez faire le choix de faire la myosynthèse pour confirmer le diagnostic et prendre votre décision de façon éclairée à ce moment-là. Donc, on arrive avec la myosynthèse. C'est quoi ça? Ça, c'est le test diagnostique. Donc, les autres étaient des tests de dépistage. Lui, c'est un test diagnostique extrêmement fiable où avec une longue aiguille très fine, on va venir faire une ponction à travers l'abdomen de la femme enceinte pour venir faire une ponction de liquide amniotique. Donc, pour venir recueillir un peu de liquide amniotique. Donc là, pour être sûr de pas faire mal au bébé, c'est une intervention qui va être guidée sous échographie, donc pour qu'on ait l'image en même temps. Puis, dans la ponction du liquide amniotique, finalement, on retrouve de l'ADN du bébé. Donc, son caryotype fœtal va pouvoir être évalué et on va pouvoir dire, OK, il y a par exemple une trisomie 21 ou une trisomie 13. Donc, vous comprenez que c'est un test qui est super intrusif, que ça comporte des risques, bien entendu, dont celui, entre autres, de provoquer une fausse couche qui se trouve généralement à ce moment-là à être une fausse couche tardive. Donc, l'incidence des complications à une amniosynthèse, finalement, qui va se terminer en fausse couche, ça varie entre 1 sur 200 1 sur 200 à 1 sur 500. Donc, si la myosynthèse confirme que le bébé est trisomique, bien là, on est rendu à peu près à 17-18 semaines de grossesse. Donc, forcément, la femme enceinte commence à avoir un petit ventre. Peut-être qu'elle sent déjà bébé bouger et que le deuil de l'enfant normal, entre guillemets, est immense. Et on en revient un peu à ce fameux principe de choix libre et éclairé. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on souhaite, comme parents, accueillir un enfant trisomique? Puis encore une fois, mais tout est possible. Donc, il y a certains parents qui, au début du processus, se disaient « Ah non, je veux faire le test parce que si j'ai un enfant trisomique, c'est sûr que je ne vais pas le garder. » Puis là, ils se retrouvent plusieurs semaines plus tard à se re-questionner à nouveau et finalement faire le choix de le garder. Donc, c'est à la base, c'est un libre choix de faire ou pas le dépistage. Donc, il faut comprendre que même si c'est souvent proposé d'emblée, c'est pas du tout un passage obligé ou un processus obligatoire. Puis, c'est aussi un libre choix d'accueillir ou pas un enfant trisomique. Donc, c'est pas des décisions qui sont faciles à prendre. C'est pourquoi je trouvais ça super important d'en faire un épisode de podcast 100% dédié, finalement. Donc, pour mieux comprendre, pour mieux démystifier tout ça, mais aussi pour briser les tabous puis ouvrir l'ensemble des possibles. Donc, au final, l'idée, c'est de prendre cette décision-là en conscience, en assumant vraiment son choix et dans le respect de ses valeurs, toujours. Dans le segment Passe vite, aujourd'hui, je commence avec notre coup de pouce. Et oui, je te parle de notre programme d'accompagnement connaissance, notre toute nouvelle formation en ligne qui est conçu pour parcourir l'ensemble des étapes clés par lesquelles tu vas passer, autant pendant la grossesse jusqu'au 4e trimestre de retour à la maison avec bébé. Et je t'en parle parce que tu vas y retrouver, un peu comme dans cet épisode, une foule d'informations, d'options, d'alternatives pour te faire une tête et te permettre de faire des choix éclairés, alignés avec tes valeurs, pour que tu puisses vivre ton accouchement plutôt que de le subir. En fait, ce qu'on souhaite, c'est que tu sois l'actrice principale de ton accouchement, peu importe le lieu de naissance que tu as choisi. Alors, pour tous les détails, va consulter notre site web au www.petit-pas.ca dans la section « Formation ». Le lancement officiel va avoir lieu le 26 octobre. Mais d'ici là, tu peux aller t'inscrire sur la liste d'attente pour être dans les premières informées de notre prévente. Et si tu n'es toujours pas abonné à notre page Instagram, viens nous rejoindre maintenant et t'imprégner un peu de notre univers. Et si tu as envie de savoir avant tout le monde ce qui se passe, mais ça, c'est dans l'infolettre que tu vas retrouver tout ça. Le lien se trouve dans les notes de l'épisode, sur le lien en bio sur Instagram ou directement sur notre site web. Le coup de cœur du jour, c'est un outil décisionnel qui a été construit par l'Université Laval. Je le trouve super bien fait. Il y a un beau résumé des différents types de trisomie et ça amène à se poser différentes questions, à voir quelles sont les différentes options aussi, à cerner finalement quelles sont mes préoccupations par rapport aux avantages et aux inconvénients de faire le test ou encore de ne pas faire le test. Donc vraiment, un bel outil, super bien construit. Je vous le dépose dans les liens. Et je trouve que c'est le genre d'aide à la prise de décision qui permet de vraiment se déposer, de peser le pour et le contre et de faire un choix qui est libre et éclairé. Donc voilà, le lien va se retrouver dans les notes du podcast. Dans le segment mot de passe, pour cet épisode-ci, j'ai posé différentes questions. D'abord, est-ce que tu as fait ton dépistage prénatal? Et si oui, est-ce que c'était au privé ou encore au public? Et j'ai demandé également l'échographie pour toi. Est-ce que c'était synonyme de bonheur, de grande joie ou plutôt d'angoisse? Alors, je te laisse écouter les réponses.
Pour ce qui est des dépistages, on a fait ça très typiquement, encore une fois, à l'hôpital avec les dépistages de base. On n'a pas poussé les tests à savoir s'il y avait davantage de risques pour certaines maladies. Pour ce qui est des échographies, c'est sûr que c'est très stressant, surtout la première, avant d'arriver à voir bébé dans notre ventre pour la première fois. C'est stressant de savoir si tout va bien et puis de s'assurer qu'il y a ses quatre membres, il est en forme et tout ça. Et d'autant plus que, encore une fois, on était en confinement, donc mon conjoint n'était pas accepté. C'était interdit d'avoir des accompagnateurs à nos échographies. Donc, j'ai dû me rendre là-bas tout seul, passer le test tout seul. Donc, c'était émouvant. C'était émouvant, c'était difficile pour papa. C'était difficile pour moi aussi de se savoir qu'il ne pouvait pas être à mes côtés. Il était dans le stationnement de l'hôpital en attendant des nouvelles. Très stressée aussi. Donc, on a eu des médecins qui ont été très compréhensifs, des médecins qui ont été très, très gentils avec nous. Ils m'ont permis de prendre des vidéos, de prendre des photos, de répondre à toutes mes questions. Ils ont pris vraiment le temps de tout me montrer pour me rassurer, en fait, que tout était correct. Donc, de ce côté-là, j'ai rien à redire.
Pour moi, le père de mes enfants, le dépistage prénatal, c'était pas négociable. Je voulais absolument le faire. En 2013, dans ma première grossesse, il n'y avait pas grand-chose qui était offert au public, donc il fallait se tourner vers le privé. On a fait appel à l'équipe de Procréa, puis on a eu un suivi relativement court du moment où les marqueurs étaient encourageants, puis qu'il n'y avait pas de risque de maladies génétiques, trisomie et autres. Donc, très belle prise en charge, résultat très rapide, mais on ne se le cachera pas, c'est quand même très coûteux et ce n'était pas nécessairement remboursé par les assurances. Pour la deuxième grossesse, on a décidé plutôt de se diriger vers le public. On était alors en 2015. Il y avait un petit peu plus de services qui étaient offerts pour le dépistage, mais c'est encore assez sommaire là, avec les prises de sang. Puis, suite à l'obtention des résultats de ces prises de sang-là, justement, il a été détecté un risque élevé de trisomie chez mon bébé. À partir de ce moment-là, on a été pris en charge par l'équipe de génétique du CHUL, donc environ de 20 semaines à 24 semaines, suivant la myosynthèse, l'obtention des résultats et tout ça. Donc, tout a passé par l'équipe de génétique. De ce côté-là aussi, je ne peux pas me plaindre. Ils ont été aux petits oignons, ils me donnaient des nouvelles lorsque les résultats préliminaires sortaient et tout. Puis, c'était gratuit, c'était offert par le réseau de santé publique. Donc, de mon côté, je trouve qu'il y a eu des avantages et des inconvénients, peu importe l'avenue, là, privée-public qu'on a choisi. Mais maintenant, je suis contente d'avoir fait appel au service de dépistage prénatal là, pour mes deux grandes filles de maintenant 9 et 7 ans qui sont en pleine santé.
J'ai fait mon dépistage prénatal dans le milieu public, à l'hôpital, à la date qu'ils avaient choisie pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai débuté mes suivis de grossesse, on m'a juste dit « on va t'appeler pour ta première échographie ». Et donc, j'attendais l'appel de la première échographie. Donc, c'est un moment quand même stressant pour moi dans mes souvenirs parce que j'avais peur qu'il y ait quelque chose de pas correct ou de pas normal ou qu'on apprenne une mauvaise nouvelle à cette échographie-là. Donc, pour moi, c'était très, très important que mon conjoint soit présent avec moi au cas où. Je ne voulais pas être toute seule à recevoir une nouvelle si jamais. Donc, je me souviens de ça, de ce moment de stress-là. Puis, je me souviens que j'avais vraiment hâte parce que, il y a la technicienne qui était là, qui prenait toutes les mesures, mais qui ne disait pas grand-chose finalement. Puis après ça, le médecin est arrivé. Puis là, lui, bon, il a confirmé que tout allait bien, que tout était beau et tout ça. Mais donc, j'avais hâte qu'on me dise qu'est-ce qu'il y en était parce que c'était assez silencieux, là. Pendant l'échographie.
Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin. On se retrouve dans le prochain épisode, donc l'épisode 5, pour jaser préparation à la naissance. Ou plutôt, pourquoi se préparer à la naissance alors que les femmes accouchent depuis que le monde est monde. Alors, on se dit à bientôt!